Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Depuis quelques jours, nous sommes rentrés dans les mois d'Adar. Le mois d'Adar, c'est le mois, quelque part on peut dire que c'est le dernier mois de l'année. Si on compte à partir de Nissan, parce qu'on sait qu'il y a deux comptes dans la vie juive, d'une part on considère que Rosh Hashanah, donc le mois de Tishri, vers le mois de septembre, octobre, c'est le début de l'année, mais d'une autre part, il y a un autre compte. Dans la Torah, on appelle le premier mois le mois de Nissan, et donc le dernier mois, donc le deuxième, c'est le mois d'Adar. Et nous y sommes. Et le mois d'Adar est différent que les autres mois, parce que c'est considéré comme le mois le plus joyeux de l'année. Alors c'est vrai que c'est une fête assez tardive, mais c'est quand même, on a l'habitude de faire pas mal de choses. On dit qu'il y a, les Talmud nous dit que la chance, notre chance est plus grande au mois d'Adar. C'est pour ça qu'il y a des choses que parfois on dit c'est pas le moment de le faire, et parfois on dit c'est le moment de le faire. Alors bien sûr qu'il faut expliquer tout ça, mais juste pour donner une idée générale, que le mois d'Adar est considéré comme un mois où il a de chance. Pourquoi? Alors au niveau historique, c'est passé des choses au mois d'Adar. Le mois d'Adar, visiblement, on sait qu'il y a l'histoire de Purim, la fête de Purim. La fête de Purim, c'est la fête qui est liée avec le décret d'Aman, Aman qui a vécu il y a quelque chose comme 2500 ans en arrière, 2004-2005, il faut calculer exactement. Et il voulait exterminer. C'était un moment où les peuples juifs, ils ont été exilés. En tout cas, au début, ils ont été exilés dans la région de Babylonie, en tout cas une grande partie des peuples des juifs. Et ensuite, ils se sont éparpillés un petit peu dans les différentes provinces. Et à cette période, les Perses étaient ceux qui gouvernaient sur le monde, et le roi Achashverosh, qui était le puissant roi qui régnait sur 127 provinces. Tout est exact avec le chiffre aussi, c'est important. En tout cas, à ce moment, il y avait Aman qui voulait exterminer le peuple juif. Et justement, il a choisi le mois d'Adar parce qu'il a fait un calcul. Et puisque c'était un nom qui suivait l'astronomie, donc pour lui, le bon mois pour exterminer le peuple juif, c'était le mois d'Adar, et le 13 du mois d'Adar, pour les différentes raisons qu'il manquait dans le Talmud et dans d'autres endroits. Et finalement, ça a échoué, non seulement qu'il n'a pas arrivé à le faire, le contraire, il est tombé dans cette même piège que lui, il essaie de mettre aux autres, et finalement, le peuple juif, ils sont sorti ça et sauf, si on peut dire, et depuis à l'heure, le mois d'Adar considéré comme. Alors, il y a tout d'abord le jour de Purim, c'est le jour de victoire, mais comme il manquait dans le texte de la Megillah, c'est ce qu'on lit, toute l'histoire chaque année, on a l'habitude, même l'obligation de la lire. Deux fois, une fois le soir de ce jour qui correspond aux 14 jours du mois d'Adar, et une fois le jour, de préférence le matin, cette année ça tombe le 2 et le 3 mars, et donc on lit partout dans les communautés juives autour du monde, mais en tout cas, c'est lié avec la date, mais comme le Talmud nous dit, basé sur ce qu'il manquait dans la Megillah, que tous les mois est devenu un mois joyeux. Donc alors c'est le mois le plus joyeux de l'année, quoique il y a le mois de Tishri, mais ou bien le mois de Nissan, mais c'est pas pareil, on va pas rentrer dans ces détails aujourd'hui, en tout cas comme ça il est marqué, que c'est un mois joyeux. Alors, il y a pas mal d'interrogations sur cette notion, comme on va voir peut-être tout à l'heure, mais est-ce que c'est un bon mois? Qu'est-ce qu'il y a de spécial qui nous rend ce mois aussi joyeux? D'ailleurs, la joie dans le judaïsme, ce n'est pas forcément un résultat, c'est un devoir. Ça veut dire, normalement, il y a quelqu'un qui est joyeux parce qu'il lui est arrivé telle et telle chose, parce qu'il lui manque des choses, il lui manque pas des choses, pour telle raison, pour une autre raison. Dans le monde juif, on a un devoir d'être joyeux. Donc, il faut chercher le moyen d'être joyeux toute l'année. Et même au moment où on n'est pas joyeux, alors, c'est très limité. Ça veut dire, il y a une période dans l'année où la Torah nous demande de considérer la situation. Et être un petit peu triste, le mot triste n'est pas vraiment approprié, on utilise dans la chassidoute plutôt l'idée amertume, mais pas tristesse, triste c'est quelque chose qui détruit, et amertume c'est quelque chose avec une vitalité, mais c'est nécessaire parfois de remarquer que ça va pas pour arranger. Donc il y a quelques points dans l'année juive, ces points où on est un petit peu encore triste, mais vraiment c'est pas la tristesse. Et on a un devoir d'être amer dans cette période, comme Tisha B'Av, ou un petit peu passé par là. Mais ce moment est très limité, il faut la limiter, surtout dans nos générations qu'on n'a pas la force d'être amer. C'est plutôt la joie qu'on nous demande. Mais de temps en temps, passer par là, pour qu'on rende compte de ce qui ne va pas, il faut être un petit peu amer. Mais toute l'année, on est joyeux et c'est un devoir. Ensuite, il y a des périodes où il faut être joyeux davantage. Et il y a une période où carrément c'est un devoir d'être joyeux. Alors il y a des différences entre une période et l'autre, mais en tout cas le mois d'Adar, c'est une période où il faut chercher un moyen d'être joyeux. On sait que dans le judaïsme, on n'a pas le droit d'être triste. Et il est marqué. Surtout quand on fait quelque part, on fait la religion, comme on dit comme ça, il faut le faire avec joie, mais ça veut dire qu'on nous demande de faire certaines choses avec joie. Mais être joyeux, tout simplement, c'est vrai, mais surtout le mois d'Adar, il faut chercher des moyens d'être joyeux. En tout cas, il faut comprendre ça. Et de quoi on peut être joyeux? Il y a pas mal de gens qui disent, j'ai pas de raison d'être joyeux, et pourtant, et le judaïsme nous demande d'être joyeux. Alors on va voir ça, mais pour comprendre ça, alors là, aujourd'hui, je me base sur de différents discours du Rabbi de Lubavitch, mais surtout celle de l'année 92, qu'il a développé des choses très intéressantes, et surtout dans notre paracha. On est dans la paracha de Terouma. Donc c'est aussi une paracha très particulière, comme on a l'habitude de voir, que chaque semaine, on considère que la paracha, elle est différente. Elle est carrément différente. Il n'y a pas deux parachiotes qui correspondent là. En fait, correspondent, si, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'il y a deux parachiotes, donc deux passages qu'on lit dans la Torah cette semaine, qui carrément ressemblent aux autres. Chaque paracha, elle a son identité. Et cette paracha, vraiment, il y a quelque chose de très étrange, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, dans notre paracha, on parle d'un sujet très étonnant. Dieu, il veut avoir. Dieu, il se met dans l'immobilier. Il veut avoir une résidence, une maison. Alors, c'est vrai que c'est connu, il y a des temples, il y a des choses, mais tout est basé sur ça, ce qu'il est marqué dans la Torah, ou peut-être non, mais en tout cas, dans notre Torah, il est marqué, dans notre paracha, que Dieu, il veut avoir une maison. Et il demande, il a des exigences, si on peut dire comme ça, pour un petit peu dramatiser les choses. Et il veut que ce soit comme ça et pas autrement. Donc il nous donne beaucoup de détails. Et les détails, c'est en millimètre près. Et là, on pose la question tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il a une maison? Dieu, il a besoin d'une maison, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, pourquoi cette exigence de détails? Puisqu'on parle ici d'une maison pour quelqu'un qui est non limite, il n'a pas de limite. Alors, que ça veut dire? Déjà, on n'a pas compris que ça veut dire une résidence pour Dieu. Et ensuite, dire que cette résidence est toute petite, en fait. Et il y a des détails, ça doit être tant de centimètres, tant de mètres. On ne parle pas de mètres, on parle d'amotes. Amotes, c'est quelque part, c'est des mesures qu'on a fait à l'époque au niveau des corps humains. Ça veut dire qu'on a mesuré un masse, normalement les bras. Et il y a d'autres manières de mesurer, mais en tout cas, la droite nous donne les mesures qu'il faut avoir pour chaque détail. Et ça doit être exact. Et pas plus et pas moins, sinon ça ne va pas. Alors à ce moment-là, on peut demander, est-ce que vraiment ce n'est pas une exagération? Est-ce que vraiment, il y a parfois dans la vie qu'on a affaire avec des gens qui rentrent dans les petits détails, on se demande, mais pourquoi tous ces petits détails sont importants? Le plus important, c'est le général. Et on a d'autres questions sur cette paracha, surtout que notre paracha, elle est pas... ça veut dire que ce n'est pas pour tout le temps. Le temple, il y avait ce temple qui était dans le désert. Et ensuite, lorsque ils sont entrés en Israël, ils ont changé. Au début, ils ont gardé le même. Ensuite, ils ont changé pour quelque chose de fixe. Parce que dans le désert, c'était quelque chose de mobile. Donc, alors, il y avait des bois, il y avait différentes choses qui sont mobiles. Mais une fois... qu'ils ont entré en Israël, surtout à l'époque de David ou bien son fils Shlomo, là ils ont construit quelque chose de fixe. Déjà avant, il y avait quelque chose de fixe qui durait quelques 300 ans, mais c'était pas fixe, fixe, c'était fixe pour le moment. Et ensuite, à Jérusalem, depuis que c'est à Jérusalem, c'est pour l'éternel, la maison, même ce qu'aujourd'hui on n'a pas, mais lorsque ça va être là-bas, mais ça va être quelque chose de solide. Et en pierre, en d'autres matières, mais pas comme il manquait dans notre paracha. Dans notre paracha, il y a des détails qui vont durer 40 années ou un petit peu plus que 40 années. Et finalement, tous ces détails, toutes ces précisions, on les lit année après année et ça ne nous concerne pas apparemment. Donc, alors, on a posé pour le moment trois questions. La première, pourquoi Dieu il a besoin, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a besoin d'une habitation? Pourquoi toutes ces exagérations, en fait, tous ces détails, que d'ailleurs on ne trouve pas dans la Torah, les détails. Dans d'autres domaines, quand on parle de telle mitzvah, tel devoir, la Torah on nous parle souvent d'une façon générale, sans détail. C'est rare que la Torah rentre dans les petits détails. Ici, il y a tout petits détails. Et c'est très important, et sinon ça ne va pas fonctionner. Et on a posé, il me semble, aussi la question, comment ça se fait que l'infini, il va habiter dans un endroit fini, donc ça veut dire qu'on a des détails, mais ces détails sont une condition. Donc c'est, comment dire, le fini, c'est une condition pour l'infini. Ça veut dire pour faire habiter l'infini, on a besoin de quelque chose de très fini, de très limité. Et il y a encore une question. Dieu, il demande dans cette paracha que chaque il fait un don. Est-ce que Dieu, il a besoin de don? Il n'a pas assez d'argent? Et toutes ces questions, beaucoup d'autres sur cette paracha. Donc, c'est une paracha où la Torah nous demande. Dieu, il veut avoir une habitation. Et on a beaucoup de questions autour de cette idée. Il y a beaucoup de réponses, c'est pas beaucoup de réponses, c'est beaucoup de niveaux de réponses. Mais la réponse la plus simple, si on peut dire que ça se répète souvent, c'est que Dieu il a créé un monde où il a choisi de créer ce monde où la divinité va être cachée. Ça veut dire qu'on est dans un monde où on ne voit pas Dieu, tel point qu'on peut ignorer Dieu. Et c'est comme ça qu'il voulait pour ses raisons, en tout cas. Et il a donné des devoirs à l'homme. Mais maintenant, il a créé un endroit où, dans cet endroit, il y aura, oui, la présence de Dieu. Alors aussi, c'est un grand sujet, bien sûr, mais ça, c'est le poids de cette idée. Donc, alors, dans cet endroit très limité, qui doit être cet endroit et pas un autre endroit. Alors cet endroit, il y aura une révélation divine. Alors quand on parle de révélation divine, ça veut dire beaucoup de choses. Mais tout d'abord, tout simplement, que lorsque quelqu'un vient là-bas, il sent la vérité, il sent ses querelles. Et lorsqu'il rentre chez lui, il est inspiré par cette idée. D'ailleurs, c'est comme ça que c'était dans le temple, lorsque les Juifs les invitaient tout autour de Jérusalem, en fait, dans toute la terre. Lorsqu'ils sont venus trois fois par an, pendant les fêtes, dans l'endroit, alors ils ont été aspirés par cette sainteté. Et lorsqu'ils ont entré chez eux, là où ils n'ont pas vu la divinité, mais grâce à cette aspiration, ils ont amené cette idée chez eux. Et c'est ça un petit peu le but de notre existence. Vivre dans un monde qui, d'une part, il cache la réalité, la vérité et la divinité, mais d'une autre part, travailler pour révéler dans notre monde cette divinité. Maintenant, ça c'est juste un point, il y a bien sûr beaucoup des idées autour de ça. Maintenant, puisque en vérité Dieu il n'est pas limité, il est partout. Seulement que le problème c'est nous qu'on ne le voit pas, mais lui il est partout. Donc c'est pas on peut dire selon cette idée que c'est pas une habitation pour lui, c'est pour nous plutôt. Que nous on voit la réalité de ce monde parce que le monde ne nous montre pas sa réalité. Donc, aussi quelque chose de très important, c'est que dans notre monde, on a posé la question pourquoi il faut faire des dons. Les dons, c'est pas bien sûr pour lui, c'est plutôt pour nous. On sait dans notre vie que si quelqu'un participe à quelque chose, ça devient beaucoup plus cher, ça devient quelque chose à lui. Si par contre, il participe pas, il vient à quelque chose qui ne lui appartient pas, alors, à ce moment-là, il reste loin de cette idée. Et c'est ça l'idée que chacun, et la Torah insiste que chacun il devrait participer à cette construction, l'épreuve comme le riche. Et il faut, pour certains détails, il y a une différence entre pauvre et riche, chacun donne selon ses moyens. Mais pour certains détails, il faut que tout le monde donne pareil. Parce qu'il y a des différents détails, différentes choses. Mais en tout cas, on voit que chacun doit participer. Parce que ça doit être une partie de la personne lui-même. Ça doit être quelque chose à moi. On voit qu'il y a une différence pour les enfants comme les adultes. Il y a une différence entre quelque chose que j'ai reçu comme un cadeau et les choses que moi-même je l'ai fait. Les choses que moi-même je l'ai fait, même les enfants, lorsqu'ils ont fait un dessin ou quelque chose, c'est beaucoup plus cher que quelque chose que quelqu'un d'autre l'a fait. Et pourtant, peut-être c'est beaucoup plus beau. Mais ça, c'est moi qui l'ai fait. Donc alors ici, l'important c'est que moi, donc chaque individu, il participe à cette idée. Et c'est pour ça que Dieu il demande des dons. Maintenant, ce qu'on a posé comme question tout à l'heure, c'est un endroit où Dieu il donne des définitions, des détails, beaucoup de détails, beaucoup de limite, ça doit être comme ça et pas comme ça. Et il y a ce qui explique pourquoi ces mesures, à quoi ça correspond. D'ailleurs, il y a certains qui montrent comment notre monde à nous, le monde matériel qu'on connaît, notre planète Terre, ou bien, en vérité, c'est beaucoup plus que ça. Notre Terre, notre monde, même ce qui, c'est un monde parmi d'autres. Il faut expliquer ça, mais j'essaie de lancer comme ça d'une façon générale. Mais il y a d'autres mondes, pas par rapport à ce que forcément à ce que la science cherche de trouver d'autres mondes dans notre univers, mais plutôt il y a des mondes spirituels qui correspondent à notre monde matériel. Et quelque part, les temples, c'était quelque part une mini notion par rapport à ce qui se passe dans le monde spirituel, et ça explique, mais on ne va pas rentrer dans ce domaine. Maintenant, on est dans un monde donc très très limité. La notion de notre monde, c'est la notion de la limite. Et c'est bien comme ça. Le mot est Bereshit Bara Elokim, Dieu il a créé avec les limites, il a créé les limites. Il y a dans certains domaines où les limites sont très précieuses. Ça veut dire que si on dépasse la limite, on ne peut pas vivre. Et si on va prendre l'exemple médical de. Et plusieurs choses, quelqu'un qui les tensions passent, sans tension passe plus haut, plus bas, c'est dangereux pour sa santé. La température humaine, quand elle dépasse ce que ça doit être, même de peu, on ne peut pas vivre. Par contre, à l'extérieur, on peut supporter une chaleur de jusqu'à peut-être 40 degrés ou plus, en fait. Ou bien jusqu'à, je ne sais pas, 30 degrés, moins 30, ou bien moins, il y a des gens qui vivent là-bas et c'est vivable. Mais même si on est dans un monde limité, mais quand même, les limites sont différentes. Il y a des choses que les limites, donc dans le corps humain ou du corps animal ou d'autres choses, et alors les limites sont très précieuses parce que sinon, on ne peut pas vivre. Il y a dans d'autres domaines qu'on peut un petit peu être large dans les limites, mais on est quand même dans un monde que Dieu les a limités. Alors, le temple qui aussi, il doit être quelque part un temple matériel, mais qui va supporter la divinité, ses caractères doivent être limités. Parce que c'est dans un monde limité. Les nouveautés ici, que les choses limitées, il va supporter des choses sans limite. Peut-être donner un exemple, j'essaie de passer de, comment on dit, de coq à l'âne, mais j'essaie de passer d'un sujet à l'autre, mais pour pouvoir comprendre ce sujet qui est d'ailleurs très large. Et on a des exemples un petit peu dans notre corps, que d'ailleurs on considère que le cerveau, c'est quelque part comme le sein des seins, l'endroit le plus sain, le plus en tout cas, on peut dire que le plus gardé, le plus surveillé et le plus sensible, comme dans le sein des seins, que c'était un endroit très sensible qu'on ne peut pas rentrer, et pourtant, c'est la base de tout. Alors, on a des exemples, le Talmud nous dit comme ça que dans notre monde à nous, on a cette habitude de voir que si on a un récipient, alors les choses, plus que si le récipient est rempli, on peut plus mettre des choses, parce qu'on est dans un monde limité, et plus qu'on remplit, moins qu'il y a de la place. Mais il y a dans certains domaines où plus qu'on remplit, plus qu'il y a de la place. Alors, ça, c'est le domaine spirituel, comme ça il est marqué. Mais nous, on va donner un exemple matériel qui est proche un petit peu de la spiritualité. On dit que le cerveau, c'est un petit peu ça. Quoique, mais d'une façon générale, on voit ce qu'on voit en général, c'est que moins qu'il y a des choses dedans, moins que le cerveau est rempli, moins qu'il y a de la place. Plus que le cerveau est rempli, plus qu'il y a de la place. Alors, donc ça c'est l'exemple un petit peu du monde spirituel, que plus qu'il y a de la place, moins qu'il y a de la place. Et quelque part, c'est un petit peu l'idée de ce qu'on trouve dans le temple, que d'une part, la Torah nous demande des limites, mais justement, ces limites sont les récipients pour les choses non limites. Alors, c'est vrai qu'il faut expliquer ça, on n'a pas expliqué, juste j'ai donné un exemple de quelque chose, mais en tout cas, c'est comme ça, et le lien de contact entre la divinité et notre monde, c'est dans le temple, où d'une part, les choses doivent être très limitées, mais d'une autre part, il devient un récipient pour quelque chose qui est non limité. Donc, ça, c'est le temple. Alors, ce qu'est dans le temple, parce que Dieu il a créé un monde qui est limité, il reste limité. Donc, quelque part, on s'inspire là-bas. Et lorsqu'on rentre chez soi, donc ça c'était dans les périodes où il y avait le temple, que ça va, avec ma chair, ça va se reprendre. Alors, ça c'est l'idée des temples en général. C'est pour ça qu'à ce moment, le monde était mieux, etc. Il y a pas mal de choses par rapport à ça. Maintenant, donc on a parlé des temples, mais il y a un rapport, dans le Chassidut, on développe qu'il y a un rapport entre ce qu'on fait et ce que nous sommes. On a dit comme ça que pour créer le temple, alors il faut que chacun participe. Et le Talmud nous dit pourquoi il y a, en fait, il est marqué dans de différents endroits, surtout dans le Chassidut, on développe ça, que le temple, c'est à l'image de l'homme. Ça veut dire que quelque part, on peut trouver à l'intérieur de nous cette même notion qu'on trouve dans le temple. Ça veut dire qu'il y a plusieurs choses qui sont des niveaux carrément différents. On a l'impression qu'ils sont carrément loin l'un de l'autre et pourtant ils se répètent. Ça veut dire c'est une répétition. Il y a ce qui se trouve dans notre monde, qu'on trouve la même chose dans un monde spirituel, qu'on trouve la même chose dans un monde beaucoup plus spirituel, et pourtant, ça c'est spirituel, ça c'est matériel, et pourtant il y a des choses qui correspondent. Alors, l'homme aussi, à l'intérieur de lui, il y a tout ce système qu'on trouve ici, il est marqué dans certains livres, le rapport entre l'arche et l'homme, le rapport entre la menorah, donc l'arbre et l'homme, c'est qu'on trouve la même chose, ce qui correspond. Et il y a beaucoup de détails. Mais on va parler surtout d'un de ces sujets. Dieu, il demande des dons. Donc les dons qu'il donne, une liste des dons dans notre paracha. Il y a des différentes choses pour utiliser pour le temple. Il y a beaucoup de sortes de la laine bleue, de la laine rouge et d'autres. Et parmi les choses qu'il demande, tout au début, l'or, l'argent et le cuivre. Chacun, il va servir pour d'autres choses. Le rabbi pose la question, pourquoi on commence par l'or? L'or, c'est les choses qu'on a le moins. C'est des choses qu'on n'a pas beaucoup. L'argent, on a plus que l'or, en fait. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de l'argent. Il y a certains qui ont de l'argent, mais en tout cas, à l'époque, l'argent était quelque chose de monnaie qui était... On a échangé. D'ailleurs, le mot shekel, ça veut dire mishkal. Mishkal, ça veut dire de poids. On a acheté avec de l'argent. L'or, c'était quelque chose de précieux. Et pourquoi la première de la liste, c'est l'or? Puisque l'or, finalement, c'est des choses qu'on a beaucoup moins. Cette question a besoin d'explication, mais je ne vais pas rentrer. Mais l'idée qu'il développe, c'est que, puisqu'on a dit tout à l'heure que le temple, c'est l'image de nous-mêmes, donc alors quelque part, lorsque quelqu'un il fait un don de sa personne, c'est vrai qu'il fait un don de l'argent, mais en même temps il fait un don de sa personne. Alors on peut donner de l'or, on peut donner de l'argent, on peut donner de cuivre, on peut donner beaucoup d'autres choses. Et là il explique comme ça qu'on sait que l'or c'est quelque chose qui dure. L'or c'est quelque chose qui peut durer. C'est pas quelque chose qui s'abîme comme les autres choses qui s'abîment. C'est quelque chose de très précieux, c'est quelque chose qui est très, il me manque un mot. En tout cas, c'est quelque chose quelque part qui reste. Ça montre un petit peu dans la qualité humaine. On peut dire parfois, il y a cette expression qu'on dit sur quelqu'un qu'il a un cœur en or. Qu'est-ce que les gens veulent dire exactement par ça? On peut poser la question, mais... Et cette notion, aussi, on utilise dans d'autres domaines pour dire que la beauté de la personne, la gentillesse de la personne, c'est quelque chose qui, si c'est pas avec le temps, il a toujours ses qualités. Il a toujours ses qualités. Par contre, les autres matériaux, si on peut dire, ça s'abîme, ça veut dire que parfois on a plus, parfois moins. Pour dire vraiment quelques mots, essayer de... conclure, c'est qu'il y a des qualités, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est doué dans tel domaine, l'autre qui est doué dans tel domaine. Donc on a des différentes qualités que parfois ça se développe plus, parfois ça se développe moins, mais chacun il a ses qualités. Mais, et ses défauts, mais ses qualités, ce qui nous intéresse. Donc chacun doit donner à la société de ses qualités. Mais il y a une qualité qu'on a tous, ça c'est la qualité qui s'appelle ici l'or. Ça veut dire, mais cet or, il faut chercher à l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'il y a une qualité qu'il faut absolument le chercher. Mais on l'a, de toute façon. Et la Torah nous demande à trouver cette qualité et la donner. Il y a d'autres qualités, comme on a dit, que les qualités qu'il y a chez l'un, il n'y a pas chez l'autre. Mais il y a une qualité qui s'appelle ici or, qu'on a à l'intérieur de nous, et ça, c'est une qualité qui ne s'abîme pas. Elle se trouve chez tout le monde, et c'est pour ça que la Torah elle commence par l'or, parce que ça, c'est la première chose, et avec ça, il faut commencer. Si on essaie de traduire ça au niveau philosophique, et pas philosophique, et plutôt à d'autres niveaux, ce qui correspond à chaque personne, je pense que. Et les psychologues essayent de chacun trouver chez chacun une qualité qu'on a de toute façon. Il y a pas mal de choses qu'on peut donner comme exemple. Je ne sais pas si c'est le moment, mais il y a des gens, en fait, il y a... Ça, c'est un sujet qu'il faut développer, mais il y a des gens qui prennent le temps pour sentir l'or intérieur. Si, ou bien par tel poids, ou bien par tel poids, ils trouvent un énorme plaisir, tout simplement, d'être entre eux et sentir leur intérieur. Ça peut être un exemple, c'est pas tout à fait ça, mais ça peut être un intérieur de sentir notre bien intérieur. Très souvent, les gens qui s'occupent de la psychologie ou d'autres, ils essayent de trouver chez chacun le bien intérieur qu'il y a en lui. Et ça peut être intéressant, ça veut dire que c'est un bien intérieur que ce n'est pas limité par telle qualité ou bien d'autres qualités que là il a et l'autre il n'a pas, et là c'est plus développé, c'est moins développé, mais c'est une qualité intérieure qui, ici on l'appelle l'or, que c'est quelque chose qu'on a tous d'une façon égale, et il faut la trouver justement, elle est très très comme l'or qui se trouve... Dans la profondeur, il faut la trouver. Aussi, cet or, il faut la trouver. Alors, si on revient ici, donc, c'est vrai que ça, c'était une idée pour le peuple juif de créer leur temple et que chacun devrait donner de son intérieur, de son profondeur pour créer ce temple. Mais c'est vrai aussi que c'est une façon plus générale parce que finalement, on vit dans le même monde. Il y a chez certains que... ça se développait dans leur petit monde, et il y a d'autres personnes que ça, on peut les développer d'une façon plus générale, parce que la même idée qu'on trouve chez une communauté, on trouve chez les autres communautés, même si c'est d'une autre manière. Donc, alors, ce qu'on peut dire, pour créer une résidence pour Dieu, il faut commencer par soi-même. Ça veut dire travailler sur soi-même. D'une part, il faut donner de ses qualités. Il faut donner, alors là on parle de donner dans le temple, mais ça peut être donné à la société, ça peut être donné à la famille, donner à sa femme, en fait, donner. Donc ça c'est quelque chose de très important dans nos sociétés, de savoir donner. Et ce qu'on donne, il y a deux sortes de choses qu'on donne. Je donne de mon expérience, je donne de mon savoir-faire, mais il y a... Donner, ça veut dire pouvoir pénétrer à l'intérieur de moi et donner de mon bien intérieur. C'est un petit peu flou comme idée, mais on sait que ça existe. Et donc, il faut savoir sortir le bien intérieur et le révéler. Et c'est pour ça que la Torah, elle commence lorsque Dieu il veut avoir une résidence. Alors, cette résidence, elle va être une résidence matérielle où Dieu il va résider dans cet endroit à ce moment-là. À ce moment-là, bien, ça va être une maison, ou bien une maison portable, ou bien après une maison fixe. Mais dans cet endroit, on va voir ce qu'on voit pas partout. Mais d'une façon plus globale, c'est dans notre vie. Notre vie, c'est comme une résidence. Il y a que chacun qui fait de sa résidence une résidence pour Dieu. Une résidence pour Dieu, ça va dire beaucoup de choses aussi. Mais ça va dire aussi une vie digne, une vie de paix, une vie gentille, etc., etc. Et pour ça, c'est vrai que chacun doit donner de sa personne, mais surtout de son or, de son bien intérieur que parfois on ignore. Alors maintenant, on va répondre à la première question, pourquoi le mois d'Adar, c'est un bon mois. Alors comme on a dit, et là aussi je ne développe pas beaucoup, mais juste je donne le point à ce qui est le manque dans la chassidut, qu'il y a des mois, chaque mois il a ses qualités. Les vraies qualités se trouvent dans le mois d'Adar où, quelque part, on avait l'impression que tout a été perdu pour plusieurs raisons. Et à ce moment-là, on a trouvé une source intérieure qui montrait notre force, comme quelqu'un qui, au niveau médical, que tout est perdu. Et là, d'un coup, il trouve une force intérieure qui sort de l'intérieur, et là, ça commence à faire fonctionner tout, ou bien dans d'autres domaines. Et c'est pour ça que quand on trouve ce bon intérieur, c'est la plus précieuse, plus précieuse chose qui existe. Et puisque le mois d'Adar représente, quelque part, une notion d'aller, de recommencer depuis le début, parce qu'on a puisé à l'intérieur de nous quelque chose qu'on ne savait pas que ça existe. Et comme il manquait les détails, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais quand quelqu'un qui se trouve au plus bas et finalement il trouve un fond intérieur qui à partir de là il recommence et il monte, donc ça c'est quelque chose qui dépasse tout le bien, toutes les qualités, parce qu'on vit quand même dans un monde où il faut avoir telle qualité, telle qualité. Mais le moteur de toutes ces qualités, c'est le bien intérieur. En tout cas, c'était pas très bien développé, mais ça c'est l'idée générale de ce que nous dit cette paracha, ce mois de Hadar, de savoir qu'on a un bon intérieur qu'il faut la développer, et que Dieu fasse qu'on puisse la trouver. Il y a pas mal de gens qui le font quand même, et trouver leur bien intérieur, que chacun il a parmi nous, et la sortir dehors et faire profiter. Et à ce moment-là, quand on travaille sur notre intérieur, c'est comme ça qu'on arrive à trouver un monde plus équilibré, un monde de paix, et donc ce qu'on appelle chez nous le monde de Mashiach. Merci pour votre attention et bon mois d'Adar.
Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.